bénévoles et amateurs, avec des professionnels qui sont dessus à longueur de journée. Mais c'est vrai qu'après, eh bien, je suis le site bandymania.com est très 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 loin devant l'ensemble des sites, y compris professionnels et autres qui peuvent exister sur le net.
En tout
Donc
cas, ce qui est sûr, David, c'est que il y a eu un bel article qui a été fait effectivement sur bandymania.com, donc dans l'officiel du net, et donc on doit les saluer aussi pour ça parce que c'était une belle idée. Et puis ça prouve aussi que les motards ont trouvé effectivement à qui parler, et particulièrement quelqu'un qui les écoute. Et c'est vrai que si je disais tout à l'heure que Henri Salvador n'était pas très loin de toi et qu'il y avait un point commun, c'est que vous avez tous les deux du charisme et vous aimez effectivement le travail bien fait. Et en l'occurrence, effectivement, vous avez aussi ce flegme britannique qui vous appartient, un peu comme James Bond, c'est-à-dire que vous travaillez aussi dans le respect, et ça méritait effectivement d'être salué.
je sens que je vais avoir la tête qui va plus rentrer dans le casque ce soir. Les mots ne me viennent plus à la bouche. Mais on va partir effectivement sur une nouvelle émission Moto Passion numéro 4 avec eh ben des actus qui sont fort riches ce mois-ci sur tous les sujets, et notamment juste après les actus, un gros dossier sur les moto écoles et sur eh bien ce qu'il faut faire pour choisir sa moto école, comment il faut le faire et à quoi et quelles sont les surprises auxquelles on pourrait s'attendre. Et c'est vrai que quand on n'est pas encore motard, c'est pas toujours évident. Et puis ensuite, eh bien, quelles sont les motos dans la série suite débutants, moto débutants et motards, quelles sont les motos disponibles pour les jeunes motards. Et on terminera par un agenda. Donc une émission très très riche.
Et puis garni comme le plateau de Noël, et bientôt effectivement c'est les fêtes, donc la dinde sera aussi au rendez-vous, ainsi que le sapin de Noël, et puis aussi le Père Noël qui est de plus en plus sollicité par les administrations. On voit qu'il y a de plus en plus de services qui effectivement se consacrent donc aux célèbres petites lettres remplies de bonnes commandes pour Papa Noël. Sinon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette émission sera rediffusée donc sur les deux homepages de Radio Zap et de Recast103.net, ainsi que de Bandimania, mais là qui ne seront pas nécessairement sur la homepage, mais par le moteur de recherche, vous y retrouvez facilement. Et donc, si vous la loupez, cette émission, ce qui d'ailleurs ne devrait pas se faire, mais si vous la loupez, c'est que vous avez vos raisons, et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez la retrouver, ainsi que les conseils éclairés de notre ami David, qui essaye d'être toujours le plus près possible dans ses explications. Et c'est vrai que pour faire de la radio, eh bien, il faut savoir utiliser un langage imagé, le maître, effectivement. Excel dans le domaine. Allez, on commence avec le premier dossier, donc ou alors l'actualité, c'est comme tu veux, David.
Eh bien,
Soit l'actualité avec effectivement donc tout ce qui s'est passé par rapport à la moto et par rapport à la sécurité, parce que la sécurité, il faut effectivement s'en rappeler aussi. Et puis peut-être qu'aussi dans cette émission, on parlera un peu de l'euro et on aura et surtout certaines modifications peut-être concernant les normes européennes.
alors, eh bien, oui, effectivement, l'émission, on peut la retrouver sur le site, puisqu'il y a un lien respectif sur une page qui est entièrement consacrée à Eureka et Radiozap.net. Mais surtout, on peut la retrouver également à partir de la page d'accueil, puisque dans la colonne de droite sur la page d'accueil du site, eh bien, il y a une section réservée à Radionet Moto, et juste en dessous, un lien sur émission Moto Passion numéro 3, c'était le précédent numéro, et ça sera numéro 4 d'ici ce week-end. Alors, effectivement, on enchaîne tout de suite, on embraye sur les grosses actualités. Alors, l'une des actualités qui me viennent tout de suite à l'esprit, eh bien, c'était les manifestations FFMC qui ont lieu en France, et notamment sur Paris lors du dernier week-end, où il y a eu plus de 1000 motards qui se sont réunis. Alors, certains diront que c'était une manifestation un peu parisienne, parce que c'était pour défendre la possibilité de stationner sur les trottoirs et de circuler dans les couloirs de bus. Il faut savoir qu'à Paris, effectivement, il y a très très peu de stationnements pour les motos. Il y a 12 000 en fait, 12 000 stationnements simplement, d'emplacements de stationnement, alors qu'il y a plus de 120 000 de roues, donc il y a un net déficit. Et autrefois, il y avait une tolérance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une moto n'était pas dangereuse sur un trottoir, qu'il y avait la place pour laisser passer par exemple une large poussette ou un landau, eh bien, et que la moto était en équilibre et ne risquait pas de tomber, il était autorisé de la laisser. Maintenant, c'est un PV, sans compter que le PV peut tomber facilement d'une moto beaucoup plus facilement sur une moto que sur une voiture. Et l'autre point, eh bien, c'est la circulation dans les couloirs de bus qui, à Paris, ont bénéficié de murets qui sont, un, dangereux pour arriver à passer. Et ensuite, du coup, la chaussée s'est trouvée un petit peu réduite et les voitures font encore moins attention, je dirais, aux motos. Et effectivement, les couloirs de bus, les motos ne gênent pas les, comment ça s'appelle, les bus et permettent par contre de séparer les motards du reste de la circulation et des voitures et donc de les sécuriser. Tout ceci se faisant effectivement, et c'était une des demandes de la FFMC, en sécurité, je dirais, par rapport aux cyclistes qui ont eux le droit de circuler dans ces couloirs de bus, puisqu'auquel cas il devrait y avoir une limite de vitesse basse, je dirais, enfin haute, afin que les motos n'aillent pas vite et ne mettent pas non plus en danger les cyclistes, puisque c'est franchement pas le but. Alors effectivement, c'était une grosse manifestation, 1000 motards, ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu autant une aussi grosse manifestation de deux roues, et il faut saluer un petit peu l'événement, comme quoi tout le monde n'est pas complètement gelé par le froid. On arrive à Noël et ce sont les promos. Et effectivement, toutes les marques actuellement font des promos. Même Suzuki sur un modèle connu comme la Bandit 600S qui normalement est à pas loin de 45 000 francs qui est vendu 3 000 francs de moins, comme la Kawasaki ER5 qu'on peut trouver à près de 30 000 francs. 30 000 francs pour une moto qui est une 500 cm3, qui est une très très bonne moto pour démarrer, y compris pour la Yamaha Diversion. Et bien sûr, quand il y a des motos qui sont vendues plus chères et qui atteignent des prix de voiture type 70 ou 80 000 francs, et bien c'est pas 2 ou 3 000 francs de réduction que l'on peut avoir, mais 7 ou 8 000 francs. Donc c'est vraiment un bon mois à faire. Tout simplement, et bien il y a plusieurs raisons, hein, si on fait un petit peu l'analyse de ça, c'est qu'il y a eu le mondial, il va y avoir des nouveaux modèles qui vont arriver pour 2002, et les concessionnaires essaient de vider un tout petit peu leur stock. Et c'est vrai que le marché de la moto a bien fonctionné plutôt en France et en Europe, et ça a un peu ralenti en octobre. Donc on est juste au même niveau à peu près que l'année dernière, en sachant qu'en l'an 2000, il y avait eu 180 000 immatriculations en France. Autre actualité, eh bien c'est Voxant qui a en fait jusqu'à demain pour présenter un bilan de redressement. On avait vu à la mi-novembre que les motards apportaient leur appui aux constructeurs français, donc ils avaient fait également des manifestations, et notamment à Issoire. Ils avaient également lancé le site du club Voxant, avait lancé une pétition en ligne et puis une pétition pour maintenir l'activité de l'usine, et puis une campagne d'engagement un peu à la manière du Téléthon, je dirais, de dons personnels pour eh bien réinsuffler de l'argent dans la société. Donc ça, c'était une des actions qui a eu dernièrement. Une autre action, eh bien, ce sont les salariés de l'entreprise qui, il y a 2 semaines, ont annoncé leur désir de reprendre en main leur propre entreprise et qui ont donc proposé un plan. Donc, dans les jours qui viennent, on saura un petit peu quel est l'avenir de Voxant, cette chère marque française que l'on aimerait bien voir continuer, d'autant plus que ce sont vraiment des motos d'exception et qu'il y a vraiment quelque chose à faire, que tout est lancé maintenant et qu'il serait dommage de voir une aussi belle marque mourir alors que tous les éléments sont là pour en faire une réussite, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une moto française en plus, et de qualité.
Alors une chose également, donc vous qui écoutez, si vous êtes moteur, motarde, si vous découvrez tout juste la moto, je vous rappelle que donc Eric est le webmaster du site www.bandimania.com, le site effectivement référence donc sur la moto sur le net, et qu'à partir de ce moment-là, donc vous pouvez également enfourcher votre téléphone et nous appeler si vous avez des questions à poser à notre ami Eric au 04 73 17 06 49. La ligne vous attend, elle est ouverte. 04 73 17 06 49. Je vous rappelle également que cette émission donc sera rediffusée sur radiozap.net, www.radiozap.net et www.eureka63.net, les nouveaux DNS, et que donc elle sera aussi disponible sur le site www.bandimania.com avec un lien effectivement pour pouvoir vous repérer. Je vous invite aussi, si vous voulez qu'on parle de sujets qui vous intéressent concernant la moto ou concernant effectivement les dangers liés à la moto, ou peut-être aussi vous avez une histoire, vous êtes un collectionneur, vous souhaiteriez donc être présent dans cette émission, eh bien vous pouvez vous manifester donc à eureka63@wanadoo.fr. Voilà, donc pour l'heure, il est 22h12 minutes. L'émission a commencé depuis maintenant une dizaine de minutes. Alors aujourd'hui, un très gros dossier sur les motos écoles. Apple. Donc David va nous en parler. Si vous avez des questions également, et si vous-même vous êtes en train de passer votre permis moto et que vous souhaiteriez réagir, ben vous pouvez le faire donc en direct. Je vous redonne le numéro 04 73 17 06 49. 04 73 17 06 49. Je te donne la suite, David.
Merci Phil. Eh bien, je vais terminer par une actualité qui est un petit peu passée inaperçue, et c'est un petit peu dommage, mais il y a un décret aux journées officielles qui est tombé en tout début du mois de décembre, qui en fait renforce énormément les distances de sécurité sur les routes. Il faut savoir que les distances de sécurité sont une chose importante, tout le monde le sait. On le voit souvent sur les autoroutes où il y a les deux marquages au sol pour dire attention, autrement vous êtes trop près si vous ne voyez plus qu'un marquage, mais ils sont réellement impliqués dans pratiquement tous les accidents et carambolages et collisions en chaîne. Donc du coup, il y a un décret qui vient d'être publié qui oblige en fait à tout conducteur à respecter une distance de sécurité d'au moins 2 secondes avant le véhicule qui le précède, ce qui représente quelques centaines de mètres en fonction de la vitesse à laquelle on est. Et ce qui est remarquable en fait, parce que des décrets on en voit à l'appel, je dirais, tous les jours, c'est qu'il y a des sanctions qui sont très très lourdes par rapport à ça, puisque le minimum c'est 750 €. On reparlera de l'euro un petit peu plus tard, mais ça fait pas loin de 5000 francs quand même, et 3 points sur le permis en moins. En sachant qu'on peut aller jusqu'à un retrait de permis de 3 ans. Donc c'est l'une des premières fois où on voit qu'il y a une sanction aussi lourde, je dirais, via un décret. Ce qui est un petit peu regrettable maintenant, et bien que ce soit à nouveau le code de la route soit géré en fait par beaucoup de répression, et on entend beaucoup moins parler de prévention et de formation. Donc ça, c'est peut-être mon côté un peu bandit, mais de dire qu'il y aurait besoin d'un peu plus de meilleures structures, d'un peu plus de prévention, de formation et de choses qui coûteraient à l'État un peu plus cher, effectivement, comme la réduction de la TVA sur les formations, sur des articles de sécurité, où là on irait vraiment dans une démarche un petit peu positive et allant sur le long terme plutôt que quelque chose d'un peu sur le court terme, qui effectivement rapporte de l'argent, mais c'est bien la seule chose, d'autant plus qu'il va être très difficile de mesurer si deux voitures ont effectivement 2 secondes d'intervalle l'une avec l'autre. Donc voilà, ce sont un petit peu les grands thèmes qui me font également réagir. Et effectivement, eh bien, c'était la dernière grosse, entre guillemets, actualité de ce mois-ci. Il y en a eu plein d'autres, hein, bien sûr. Il y a de nouveaux modèles de motos qui sont sortis. Il y a la Hornet 900, qui est un très très gros roadster sorti chez Honda, qui a beaucoup fait parler de lui dernièrement, puisqu'il a été mis un petit peu à l'index par Moto Journal. Et c'est quand même quelque chose qui est important, sur lequel je vais passer un petit peu de temps, c'est sous la notion de sécurité qu'il y a avec les motos. On arrive à une... On parle maintenant de très très grosses cylindrées. Alors, il y a plus... Avant, il y a quelques mois ou années, on parlait de course à la puissance, avec des motos qui dépassaient 300-340 km/h, et on voyait les premières pages de journaux axées sur la vitesse. Ça a complètement disparu, et je pense que c'est une excellente chose. Il y a une petite tendance à la course à la cylindrée, et on voit de plus en plus de motos sortir en 1400, 1300, 1500 cm3 à l'heure actuelle. Et on a tendance à oublier que même des modèles qui sont moins lourds en cylindrée, type des 900 cm3, héritent de moteurs qui sont, eux, très 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 puissants, et que ces motos-là ne sont pas obligatoirement à mettre entre toutes les mains. Et la Hornet fait partie de ces cas-là. C'est une 900 cm3 qui, en fait, hérite d'un moteur d'une hypersportive, donc d'une moto qui est capable de faire les 24 heures du Mans, j'exagère, mais qui est capable de faire, en fait, énormément de vitesse et des pointes fabuleuses avec du couple, de la puissance. On met ça sur une moto qui ressemble à une petite moto, parce que le cadre est très très petit. C'est une moto qui n'est pas excessivement chère à l'achat. Et on se dit, tiens, 900 cm3, c'est bon pour moi. Alors, c'est une moto qui est particulièrement nerveuse. C'est une moto qui donc n'est pas à mettre dans les mains d'un débutant, mais au contraire d'un expert. Et c'est pas évident maintenant de se retrouver sur un marché où, par exemple, il y a des motos comme la Suzuki GSX 1400 cm3 qui, elle, est très très facile de prise en main face à des roadsters très très méchants comme la Honda 900 qui, eux, sont réservés à d'autres personnes. Donc, suggestion, mais on va peut-être arriver à, comme sur certains jeux vidéo, à interdit à moins de 12 ans, ou comme pour les films, interdit au moins de... 3 ans de permis ou moins de 50 permis. Et je crois qu'on peut toujours rêver, mais effectivement, les marques vont bientôt être obligées de spécifier un petit peu sur leur modèle, et bien que certains modèles ne sont pas adressés à n'importe qui. Ça devrait être aussi le rôle du concessionnaire d'avoir ce rôle de conseil. Maintenant, un client qui veut absolument une moto, malheureusement, le concessionnaire ne peut pas non plus s'opposer à vendre un modèle sous prétexte qu'il pense que la personne et qu'il n'est pas en plus capable de juger si la personne est capable de conduire cette moto. Donc voilà, c'était le petit point sécurité, quelle moto pour quel motard, qui me fait passer au gros sujet principal de ce numéro, qui sont comment choisir sa moto-école.
Tout à fait. Alors, avant effectivement d'entamer sur le dossier, si vous voulez réagir, donc nous sommes dans le numéro 4 de Motopassion avec Eric, un webmaster de son état du www.bandimania.com, le site référence effectivement des motards et des motardes sur Internet, avec un bel article d'ailleurs dans l'officiel du net pour ceux effectivement qui n'ont pas encore acheté l'officiel du net. Eh bien, je ne peux vous encourager qu'à le faire. Et puis, si vous voulez réagir à cette émission en direct, vous pouvez le faire aussi au 04 73 17 06 49. Notez bien sur vos tablettes 04 73 17 06 49. En espérant qu'on ait un peu plus de motards qui nous écoutent qu'à l'habitude. Mais je crois que ça doit monter effectivement un peu dans les pourcentages. Et moi, j'aurais une petite question pour Eric juste avant effectivement qu'on entame sur le dossier de la semaine. Y a-t-il une création dans la moto au niveau design, par exemple pour les femmes, qui peut être différente par rapport aux hommes?
Alors, en fait, déjà pour prendre à peu près les statistiques, il y a à peu près 10% de motards sur la totalité de la population motard. 90% d'hommes, 10% de femmes, c'est pas énorme. Alors, entre 10 et 15%, ça varie un petit peu selon le type de cylindrée. Alors, non, il n'y a pas de création de motos spécifiques. Maintenant, il y a des motos qui sont plus conduites par les femmes. C'est-à-dire que ce sont des motos qui, en général, sont de gabarit plus léger. Ce sont des motos qui ont également une selle qui est plus basse et qui vont permettre en fait d'avoir les deux pieds par terre. Ça peut paraître idiot, mais quand on voit que certains modèles type les Trail, eh bien il faut mesurer minimum 1,70 m, sinon 1,75 m pour mettre les pieds par terre, encore pas les pieds à plat, mais sur les bouts des pieds, il est clair que eh bien, les femmes sont en général un peu plus petites et qu'il suffit de 4 à 5 cm pour ne plus être capable de tenir debout sur sa moto, c'est tout bête. Et donc, effectivement, il y a des motos qui sont plus privilégiées par les femmes. Il y a les custom, bien sûr, où elles ont vraiment les deux pieds à plat. Et puis, il y a des motos, eh bien, de petites cylindrée ou moyenne cylindrée type, et plutôt dans les roadsters, mais du type SV ou chez Suzuki ou Ducati Monster, qui sont des motos qui sont très légères, avec du couple, donc avec du caractère, je dirais. Elles recherchent pas obligatoirement la vitesse, mais elles cherchent effectivement le plaisir et les sensations, et elles vont se diriger plutôt vers ce type de moto. Alors après, on voit quelques rares phénomènes, sans que ça soit du tout péjoratif, de femmes qui ont des hypersportives, donc des motos très très puissantes, mais elles sont malgré tout très très rares. Et par rapport aux trails, ce sont quand même des motos qui sont également plus basses de selle, et qui sont relativement légères, surtout par rapport aux roadsters, parce que quel est le poids d'une moto à l'heure actuelle, à sec, c'est-à-dire sans le plein d'essence, etc. Ce sont des motos qui vont tourner à 180-190 kg, ce qui peut paraître très très lourd, mais en fait c'est un poids qui est orienté vers le bas, enfin qui est très très bas, et qui se sent pas du tout, il n'y a pas besoin de le relever réellement.
Et au niveau du guidon, je me suis toujours posé une chose. Est-ce que les bras des femmes, effectivement, ont été un peu remarqués aussi par rapport aux constructeurs? Est-ce que les guidons sont plus courts, voire effectivement plus rentrés?
Non, là, il n'y a pas de sur les guidons, il n'y a pas de changement particulier. L'un des avantages, je dirais, de la production japonaise, je vais être un petit peu humoriste là-dessus, mais c'est vrai que les Japonais sont pas dans la moyenne des personnes très très grandes non plus, c'est plutôt standard 1,70 m, donc c'est un des avantages sur un certain nombre de motos. Elles sont essayées par des Japonais également, et qui savent s'adapter de toute façon très très bien en connaissant les caractéristiques des autres pays, et ils adaptent plutôt des motos. La taille idéale, c'est vraiment entre 1 m et 1,70 m, et pour les bras, il n'y a pas Je crois que la morphologie humaine est quand même plus pour les bras moins gênante. On peut s'adapter plus facilement en les repliant un peu ou en s'étendant par rapport aux jambes où là, ben, si on touche pas pied à terre, on touche pas pied à terre et donc on tombe parce que à l'arrêt, eh bien, la moto ne tient plus en équilibre parce qu'il faut bien que les deux pieds soient posés de part et d'autre de la moto ou au moins un pied. Et c'est de temps en temps on le voit. C'est-à-dire qu'une motarde est un petit peu courte, donc il n'y a qu'un pied en fait qui est posé par terre. La fesse est complètement sur le côté de la moto, elle se tient à peine en équilibre et c'est tout un art de les voir arriver à démarrer dans ces conditions-là. Par contre, si on part un petit peu dans d'autres secteurs, et notamment le secteur de l'habillement, même si la population motarde ne représente qu'à peu près 10% de la population, il commence à y avoir un effort très très net, notamment au niveau des fabricants allemands. D'accessoires, de blousons, de pantalons, de bottes, pour s'adapter à la morphologie féminine, parce que ben effectivement on n'est pas bâti de la même manière, une femme a des atours que les hommes n'ont pas et vice versa. Et donc les Allemands en sont très préoccupés pour une raison très très simple, c'est que en Allemagne, de façon légale, il est pratiquement obligatoire d'avoir une combinaison, etc. Et il y a donc des lois également derrière qui obligent, et ce qui fait que, alors qu'en France, bon, beaucoup de gens circulent encore en jean, et si avec le jean ce serait pas le pire, mais on voit régulièrement sur les routes estivales des gens en t-shirt ou en short, ce qui est une aberration faramineuse, surtout quand on pense à la sécurité, parce que ben, la peau brûle au contact du sol.
Tout à fait. Et juste avant donc d'attaquer, parce qu'on est déjà en retard au niveau de ce dossier donc de moto-école et permis moto-école, eh bien je pourrais dire pour rebondir sur ce que tu nous as révélé au niveau des Allemands, que les Allemands savent mettre les formes. Allez, on attaque.
On attaque sur la moto, sur ben, comment choisir sa moto-école. Vous êtes motard, enfin vous souhaitez être motard et entrer dans la grande famille généreuse et d'entraide des motards ou des deux-roues de façon plus large, parce que il y a les 125 également, c'est là où commence le monde de la moto par rapport au scooter. Eh bien, il y a ceux qui commencent, c'est le réflexe de base, qui était mon réflexe d'ailleurs quand j'ai commencé la moto, c'est, eh bien, ma moto école, est-ce qu'elle est proche de chez moi? Il me faut un petit prix et puis des horaires. Eh ben, si je travaille, par rapport à si je suis étudiant, il faut qu'il puisse y avoir des cours le samedi. Voilà quels sont un petit peu les critères habituels de toute personne qui n'a jamais fait de moto auparavant et qui souhaite commencer des cours. Alors, ces critères sont obligatoirement compréhensibles, mais ne sont pas obligatoirement les bons. Pourquoi? Ben, la proximité, d'abord, ne garantit pas du tout que vous arriverez sur une moto-école de qualité. En fait, c'est pratique, effectivement, mais si la moto-école et les formateurs sont de mauvaise qualité et ne font pas bien leur boulot, ben, vous perdrez beaucoup plus de temps à passer beaucoup de cours et beaucoup d'heures de cours que de faire quelques kilomètres supplémentaires et de passer peut-être une demi-heure à chaque fois de plus en transport en aller-retour, mais au moins vous ne perdrez pas les heures de plus que vous serez obligé de passer entre une excellente moto-école et une moto-école où les formateurs ne s'occupent peu ou pas ou très mal de leurs élèves et qui fait que vous passerez 5 heures, 6 heures et 10 heures qui, elles, seront facturées au prix fort. Alors le prix. Eh bien, on voit encore des promotions du type votre permis pour 2000 francs, 2500 francs. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas de recette miracle. Le permis moto ne se donne pas. Nulle part. On a vu, il y a eu quelques scandales il y a quelques années sur des permis auto qu'on achetait. Le permis moto, ça n'existe pas. Et c'est en plus, c'est dangereux parce que. En fait, la finalité, c'est pas tellement de passer le permis moto, c'est que une fois que l'on a en fait effectivement le carton rose en main, on soit en toute sécurité sur la route et c'est pas pour avoir un problème rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe effectivement dans la majeure partie des cas, c'est que et j'ai perdu le fil de mon idée.
Voilà, donc le temps que tu te retrouves et que tu retrouves effectivement la ligne de ta page, eh bien à partir de ce moment, je vous rappelle qu'on est sur donc Radio Zap, la radio du net, qu'on est dans Motopassion numéro 4 et que bientôt c'est les fêtes de Noël et que c'est vrai que vous allez peut-être vous offrir aussi une moto ou alors vous allez peut-être offrir à celui ou à celle effectivement que vous aimez, c'est-à-dire votre fils, votre fille ou votre femme ou votre mari, effectivement un permis moto, donc en l'occurrence, bon, un permis moto, plus particulièrement une formation lié pour atteindre le permis moto, parce que si on offrait le permis moto comme ça, il y aurait de quoi s'inquiéter. Donc aujourd'hui, David vous explique effectivement comment choisir sa moto-école.
Et je continue en fait effectivement sur les 125, puisque les 125, comme vous le savez, il y a une équivalence permis B, qui fait que toute personne ayant le permis B, c'est-à-dire le permis auto, a l'autorisation de prendre une moto au moins jusqu'à une cylindrée de 125 cm3. Or, le taux d'accident de 125 cm3 de personnes ayant bénéficié justement de cette équivalence est énorme. Et beaucoup de gens qui ont acheté une moto en 125 cm3, dans les 2 mois qui suivent, eh bien, reviennent. C'est pas la queue entre les jambes, vous me passerez cette expression un petit peu olé olé, mais tout simplement parce que la moto, elle revient et il y a eu un accident. On voit de plus en plus, malgré tout, des concessionnaires mettre en place des packages, je dirais, moto plus, eh bien, au moins 5 heures ou 10 heures de conduite. Et je pense que c'est vraiment le mouvement, mais ça devrait même être obligatoire, tout simplement, parce qu'il est très dangereux de laisser des gens sans connaissance de la route aller sur une moto. Il faut savoir que les règles de conduite, les réflexes, tout est vraiment différent sur une moto, et il suffit pas de savoir faire du vélo pour savoir conduire une moto, et les dangers sont réellement complètement différents. Et c'était également l'une des actualités sur le site récemment. Eh bien, les Belges sont en train de réfléchir justement à annuler cette obligation ou cette possibilité avec son permis auto d'avoir une 125 cm3. Et ben, je suis content de féliciter les Belges pour cette initiative parce qu'on devrait l'avoir en France également. Ceci dit, je ne pense pas que les constructeurs seraient très très heureux parce que depuis qu'il y a eu cette équivalence, c'est vrai que les ventes de 125 ont tellement explosé qu'il y a beaucoup de sous également dans la balance. Alors, pour revenir sur le prix du permis moto, il faut compter en moyenne entre 25 et 30 heures pour passer son permis. Or, les forfaits de base, eh bien, ils sont à 20 heures et les forfaits de base, vous en trouvez effectivement aux environs de 2500 francs. Comptez tout de suite plus. Il existe également des forfaits 25 heures, 30 heures. Il vaut mieux être mieux préparé et une fois qu'on a son permis en poche, avoir passé plus d'heures, eh bien, tant pis, ça a coûté un petit peu plus cher, mais le coût d'un accident et des frais de réparation de moto ou des frais physiques parce qu'il y a eu un accident sont nettement plus importants. Donc vraiment, j'insiste, le prix n'est pas le phénomène le plus important. Et quand il y a des prix bas, il y a aussi des raisons. Et je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Alors après, les horaires. C'est l'autre point. Quand on est étudiant pour passer son permis, en fait, c'est vraiment l'idéal. Seulement, on n'en a pas toujours les moyens. Les horaires sont modulables. C'est vrai qu'on se dit, bon, une auto-école qui ouvre à 10 h, qui ferme à 18 h le soir, ben, ça ne va pas le faire. Si on est étudiant, ça marche. Si on travaille dans la vie active, ce n'est pas possible. Donc ça, par contre, ça va être effectivement motiver un choix qui est important, c'est-à-dire prendre une école qui commence ses cours à 7 h le matin. Ça peut permettre d'avoir 2 ou 3 heures de cours et d'arriver, par exemple, exceptionnellement un jour de temps en temps à 10 h au bureau, si on arrive à se libérer avec son patron par rapport à ça. Et idem pour le soir, c'est-à-dire un cours à 18 h qui amène jusqu'à 20 h ou 21 h permet de travailler toute la journée et d'avoir quand même des horaires. Et ce qui est important, c'est une auto-école qui puisse effectivement travailler le samedi. Alors, est-ce que maintenant, par rapport à ces histoires d'horaires, on voit aussi des forfaits passer votre permis en une semaine? Alors, non, c'est pas du tout obligatoirement la bonne solution. En fait, pour que les réflexes arrivent et qu'on se rappelle des différents éléments, eh bien, il faut prendre son temps un petit peu. Il faut faire un cours, 2 cours, et en fait, vous apercevez qu'en laissant quelques jours et en reprenant la moto la semaine suivante, en faisant 1 ou 2 cours par semaine simplement, eh bien, ça rentre de façon beaucoup plus efficace que d'en faire très longtemps ou pendant toute une journée où on est crevé, on retient plus rien, on arrête plus, et on est tellement fatigué que, eh bien, on fait erreur sur erreur, et donc ça ne sert à rien. Donc, il faut plutôt penser à prendre un ou deux cours par semaine de 2 ou 3 heures. En général, c'est plutôt 3 heures. Donc, pour revenir sur le budget, après ces remarques préliminaires qui font partie, je dirais, des réflexes initiaux de tout motard, voilà, quels sont maintenant les vrais conseils pour choisir sa moto-école? Eh bien, pour le budget, déjà, il faut prévoir entre 3 000 et 5 000 francs. Ça, c'est la réalité. C'est ce qu'il faut compter pour entre 25 et 30 heures, je l'ai dit. Un petit peu plus d'heures pour les filles que pour les garçons. Le gabarit, la force physique pour tenir la moto, pour la maîtriser est un petit peu différente. Donc elles mettent en général plus de temps pour le passer. Et il n'y a pas du tout de machisme de ma part. Au prix du forfait moto-école, il va falloir rajouter les timbres fiscaux, l'examen, etc. Donc vraiment, il faut compter plutôt 5 000 francs que même que 3 500 ou 3 000. Et il faut savoir que les formations à prix bas, eh bien, cachent souvent des conditions de cours vraiment très catastrophiques, trop d'élèves par cours avec des temps d'attente faramineux, des entraînements sur des pistes sauvages, c'est-à-dire des parkings de supermarchés, des motos en mauvais état. Donc tout ça se paye et on le gagne au retour par plus de sécurité. La répartition des heures plateau et circulation. Et oui, le permis se passe en fait en deux phases. Il y a un examen qui se passe sur un plateau, c'est-à-dire sur un espèce de mini-circuit où on va faire à la fois un passage sur un circuit lent et un circuit rapide, qui peuvent être, et il y a plusieurs configurations possibles. Et puis, il y a une autre partie de l'examen qui se passe en circulation, c'est-à-dire qu'il y a une voiture avec l'examinateur qui vous suit derrière et vous avez un talkie-walkie, et vous êtes sur la moto, et puis vous allez dans les directions qu'on vous dit, et il faut respecter le code de la route et les évitements. Alors, il faut savoir qu'en théorie, dans les 20 heures pratiques obligatoires, 12 heures devraient être réalisées en circulation. 12 heures, c'est-à-dire pratiquement les deux tiers en fait, et le reste simplement sur le plateau. En fait, dans la réalité, sur le terrain, dans la majeure partie des auto-écoles, vous allez passer 16 heures sur le plateau et 4 heures simplement en circulation ou si vous rajoutez des heures en plus. Et le résultat, c'est que le plateau. Il y a déjà la moto à maîtriser et le code de la route, il vient un peu après. Donc, si on n'est pas préparé, eh bien, on est surpris et on fait des erreurs et le permis n'est pas donné. Donc, il faut vraiment faire très très attention à ça. Alors, les heures de conduite, trajet compté. Alors, ça, c'est un point très très important. Vous savez, il y a donc des heures qui sont compter comme conduite et trajet. Alors en fait, les pistes, on part souvent de la moto-école et on va sur une piste qui peut être à un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure du lieu de la moto-école. Et souvent, les moto-écoles comptent ce temps de trajet comme temps global du cours. Or, pendant ce temps-là, vous faites rien. La seule chose que vous faites, c'est être sur la route et au pire, le moniteur est devant vous. Donc, certaines moto-écoles ne le comptent pas, la majorité le compte. Ça peut faire varier le prix de façon très très importante. La piste maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une piste privée ou sauvage? Privée, sauvage, j'en ai parlé, c'est sur les parkings. Une piste privée, c'est une vraie piste qui vous est réservée et sur laquelle il est possible de s'entraîner en toute sécurité et surtout sans qu'il y ait trop de monde parce que sur une piste privée, c'est une vraie piste avec tous les aspects de sécurité, un bon revêtement. Alors que sur une piste sauvage comme un supermarché, ce ne sont pas de bonnes conditions tout simplement. Et surtout une piste privée, vous êtes sûr que vous êtes la seule moto-école à faire votre entraînement dessus, alors que sur une piste sauvage, eh bien, vous pouvez vous retrouver à deux ou trois moto-écoles à être exactement sur le même circuit, et puis il va falloir que chaque personne attende entre chaque tour, et ça devient infernal. Ça veut dire que, eh bien, au lieu de passer 1 heure à faire du circuit rapide, vous allez en fait passer 10 minutes ou un quart d'heure, et le reste du temps à attendre que les autres soient passés entre vous, chacun à la queue. Dernier point, enfin l'un des derniers points, c'est le nombre d'élèves par cours. Alors, les textes officiels disent qu'il ne devrait pas y avoir plus de 3 élèves par moniteur lors de la conduite. Dans la réalité, il y en a 3, 6, 10 quelquefois. Et il est clair que plus il y a plus d'élèves, moins eh bien, il est possible que le moniteur passe du temps avec chacun d'entre eux quand il en passe. Donc c'est une chose que vous pouvez vérifier très simplement en allant à la sortie de la moto-école, à la sortie d'un cours, et de voir quels sont le nombre d'élèves qu'il y a pour vous de faire une idée de est-ce qu'il aura le temps de s'occuper de moi ou pas. Le nombre de motos, ça paraît évident. Il faut qu'il y ait une moto par personne. Eh bien, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que sur le terrain, vous apercevez que certaines moto-écoles, eh bien, pendant les 3 heures de cours qui sont allouées, eh bien, vous allez échanger votre moto avec un autre motard. Donc pendant ce temps-là, vous serez à pied, vous regarderez les autres. Donc ça, c'est aussi important parce que c'est autant de temps perdu. Donc Vous serez dit au début, ben, j'ai payé mon permis pas cher, 2500 francs ou 3000 francs, et puis après, ben, vous serez obligé de prendre 10 heures de plus parce qu'en fait, une grosse partie du temps, vous l'aurez passé à attendre au lieu de rouler et de vous entraîner. Alors, je vais faire assez vite. C'est un gros dossier qui est important. C'est comment choisir sa moto-école. Il y a également toute une formation pratique et théorique. La formation pratique et théorique, le moniteur doit avant chaque cours expliquer l'objectif de la leçon, ce qui doit être appris. Il doit enchaîner les explications nécessaires. Il doit réaliser les démonstrations. Il doit vous suivre lors des exercices. Il doit commenter et rectifier. Et à la fin de leçon, il doit vraiment faire le point sur les progrès, personne par personne, expliquer ce qui reste à apprendre, ce qui ne va pas, etc. Donc une forme d'enseignement personnalisé, normalement dans un petit groupe, c'est possible. Il faut savoir que pour être moniteur moto-école, il n'est absolument pas nécessaire d'être un vrai motard soi-même. Et certains font ça en plus parce que ça paye mieux que donner des cours d'auto-école et ne sont pas du tout pédagogues. Donc ça, c'est un point. Le seul point pour le vérifier, ben, il n'y a pas de mystère. C'est d'aller à la sortie d'un cours et puis de prendre un ou deux élèves au hasard et puis de leur demander ce qu'ils en pensent. Alors, il y a plein d'autres points qu'on peut voir. Donc on a parlé du moniteur, donc les élèves. Et je pense que vraiment le point pour se faire également son opinion, c'est d'aller à la sortie d'un cours et de parler directement avec un moniteur également pour voir un petit peu comment il aborde les choses. Est-ce que c'est un motard lui aussi? Est-ce que c'est un roule toujours ou c'est quelqu'un qui a juste un scooter et puis qui a son permis moto? Ça, ce sont des points vraiment très importants qui vont faire la différence entre deux moto-écoles. Et comme il n'est pas facile de savoir et de voir tous ces points-là, eh bien, il y a un sondage en ligne qui est en train d'être rempli par de plus en plus de motards sur www.bandimania.com à l'heure actuelle, qui va permettre en fait de réaliser, comme il a été fait pour le top 10 des concessionnaires, un top 10 ou un top 50 même des moto-écoles afin d'indiquer un peu partout dans la France, eh bien, quelles sont les meilleures moto-écoles et les motards qui étaient les plus chaleureux ou au contraire celles qu'il faudrait plutôt éviter. Donc, eh bien, si vous, auditeurs, vous écoutez cette émission et que vous avez déjà votre permis, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site pour remplir le formulaire. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, en tout cas, au mois de janvier, ce sera en ligne et vous pourrez déjà au moins trouver une moto-école, j'espère, dans votre région, pour bénéficier de la meilleure formation possible.
Tout à fait. Et puis là, on va effectivement abréger un petit peu parce que on a un peu dépassé. On dépasse toujours, de toute façon. Donc à partir de ce moment-là, on se retrouvera maintenant dans la nouvelle année, en 2002, David. Je ne sais pas à quelle date précisément, mais ce sera certainement un jeudi.
Oh, bah, ça sera à nouveau un jeudi, toujours à 21h50. On s'est basé pour l'instant sur le troisième jeudi du mois, donc ça va nous donner une petite date au mois de janvier qu'on validera et qui sera indiquée à la fois sur bandimania.com et puis sur radiozap.net. Mais ça pourrait par exemple être le 24 janvier.
Voilà, donc par exemple le 24 janvier, donc notez bien effectivement cette date et sinon eh bien vous serez informé bien sûr sur www.bandimania.com et sur www.radiosa.net et eureka63.net. Voilà, en espérant encore une fois que ces informations vous servent, qu'elles vous servent pour votre plaisir, qu'est le plaisir de la moto, mais aussi le plaisir de rouler en toute sécurité. On ne vous le répétera jamais assez. Une bonne sécurité fait aussi une très bonne route et surtout permet de continuer longtemps à rouler et à vivre effectivement sa passion. Merci de votre écoute, merci de votre attention, merci David, et on se
Merci Phil.
retrouvera donc très bientôt, c'est-à-dire le 24 janvier certainement, à partir de 21h50. Voilà, on est à la bourre-bourre, mais par contre, l'essentiel c'est que vous pourrez retrouver cette émission aussi sur Radio Zap, www.radiozap.net. Je vais envoyer moi
Et
le
on en
fichier.
profite pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde.
Ah bah tout à fait, et puis surtout une bonne année avec un peu d'avance. Et puis dire aussi que soyez prudents sur les routes parce que c'est vrai que quand on fête une fête aussi importante que celle de Noël, qu'on soit chrétien ou croyant ou non croyant, eh bien on a tendance à appuyer un peu sur la bouteille. Et là c'est pareil pour les automobilistes, eh bien soyez très prudents, on a envie de vous retrouver en chair et en os et surtout en grande entité, donc ne faites pas de bêtises et n'allez pas effectivement vous fourvoyer avec de l'alcool trop perçu. Voilà, donc 22h42 sur la radio qui fait aimer la radio. Il est tout de suite temps effectivement donc de rendre l'antenne du côté de cette quatrième émission de Motopassion. Je vous rappelle que si vous voulez y participer, vous avez un email eureka63@wanadoo.fr et puis David va vous rappeler effectivement l'email de Bandimania.
Eh bien, bandimania@bandimania.com, tout simplement.
Voilà, bandimania@bandimania.com. On vous souhaite vraiment de très très bonnes fêtes. Faites attention à vous et on vous retrouve donc en pleine forme et avec plein de choses à nous raconter. Je le suppose, et je subodore et bien sûr quelques motards avec nous qui feront certainement partie effectivement du quota des 10% que tu nous parlais en début d'émission. Merci David.
Merci Phil.
Et donc, bonne fête à toi aussi.